France Culture.
Le journal Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Bruno Retailleau, candidat à l'élection présidentielle, l'ancien ministre de l'Intérieur défend une candidature axée sur la fierté française avec l'espoir de ramener la droite républicaine à l'Élysée. La relance du nucléaire, nouvelle priorité de la stratégie énergétique française. Sébastien Lecornu a dévoilé ce matin une programmation pluriannuelle de l'énergie qui ne privilégie plus les énergies renouvelables. Aux États-Unis, Donald Trump va retirer sa police de l'immigration de Minneapolis plusieurs semaines après la mort de deux manifestants. En Italie, son allié Giorgia Meloni annonce un nouveau tour de vis migratoire. À 18h15, maire pourquoi faire, notre rendez-vous avant les municipales. Aujourd'hui, l'entretien du réseau routier, défi majeur pour les petites communes. 4 mois après son départ fracassant du gouvernement, Bruno Retailleau se lance dans la course à l'Élysée. Le patron du parti Les Républicains annonce ce soir sa candidature dans une vidéo sur les réseaux sociaux, après en avoir informé plusieurs élus LR. Le sénateur vendéen qui a l'ambition, je cite, d'indiquer aux Français un nouveau chemin axé sur l'ordre, la prospérité et la fierté française. Stéphane Robert, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Bruno Retailleau espère ramener la droite républicaine à l'Élysée en 2027, 15 ans après la défaite de Nicolas Sarkozy face à François Hollande.
Oui, Bruno Retailleau, qui avait été l'artisan de la campagne de François Fillon en 2017 et qui avait jusqu'au bout poussé l'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy à maintenir sa candidature. 4 ans plus tard, en 2021, il avait hésité à se déclarer lui-même candidat pour la présidentielle de 2022. Mais à l'époque, il souffrait d'un problème de notoriété. Il n'était connu que du microcosme politico-journalistique et avait par conséquent renoncé à dévoiler ses ambitions. Aujourd'hui, c'est différent. Son passage au ministère de l'Intérieur auprès de Michel Barnier, puis de François Bayrou, lui a offert une notoriété et une envergure nationale, estime son entourage, qui lui permettent d'être enfin candidat. Toutefois, le choix de se déclarer aujourd'hui, un mois avant les municipales, suscite quelques interrogations, et notamment celle-ci, n'y va-t-il pas à contre-temps ? Pas du tout, affirme un proche. Les élections municipales relèvent avant tout d'enjeux politiques locaux et sont décorrélées des enjeux et des considérations nationales, veut croire l'équipe du candidat. Par ailleurs, il faut bien se rendre à l'évidence, ajoute un de ses soutiens. Il n'y aura pas de vague bleue à ces municipales, contrairement à ce qu'espérait Bruno Retailleau quand il était encore ministre de l'Intérieur. La vague bleue, c'était en 2020, reprend celui-ci. Inutile par conséquent d'espérer une impulsion politique de ce scrutin qui ne viendra pas. Autant se lancer tout de suite. Bruno Retailleau s'inspirait également d'une stratégie qui s'était révélée payante pour conquérir le parti Les Républicains au nez et à la barbe de Laurent Wauquiez au printemps 2025. La surprise, il avait pris de court son adversaire en précipitant l'annonce de sa candidature. Par conséquent, il renouvelle l'opération et il espère ainsi s'installer dans le paysage comme l'un des prétendants les plus sérieux. Alors qu'Édouard Philippe connaît un tassement dans les sondages et doit se concentrer sur sa réélection à la mairie du Havre, et que le Rassemblement national, compte tenu des ennuis judiciaires de Marine Le Pen, n'est pas encore en mesure de dire qui sera son candidat en 2027.
Stéphane Robert, merci. Bruno Retailleau qui sera l'invité du journal de 20h de TF1 ce soir. Et pendant ce temps-là, Sébastien Lecornu poursuit ses activités. Le Premier ministre était sur le barrage de Vouglans dans le Jura à la mi-journée pour dévoiler la feuille de route énergétique du gouvernement à l'horizon 2035. L'objectif de la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, n'a pas changé. Décarboner la France, sauf que les priorités ont quelque peu changé. Sébastien Lecornu mise d'abord sur la relance du nucléaire. Les énergies renouvelables ne sont pas oubliées, mais seule la filière hydroélectrique verra son développement accéléré. Il n'empêche, le cap est bon pour Jules Nissen, le président du syndicat des énergies renouvelables.
Ça fait 2 ans et demi qu'on attend cette programmation pluriannuelle de l'énergie qui doit donner de la visibilité aux acteurs industriels, aux producteurs d'énergie. Là, aujourd'hui, il y a de quoi maintenir du travail. Après, moi, je ne sais pas exactement ce qui est prévu dans les différentes entreprises. En tout cas, ça lève évidemment une inquiétude. C'est tout à fait de nature à nous rassurer. Sur le solaire, la trajectoire qui est imaginée, elle permet aussi aux projets d'usines de panneaux solaires, qui y en a 2 en France, de se développer, ce qui était quand même un point important en termes de souveraineté. Et sur l'éolien, le calendrier est un peu décalé, mais les échéances qu'on attendait et qui sont la relance des appels d'offres sur l'éolien en mer, et pour les spécialistes notamment un appel d'offres qui s'appelle numéro 10 et qui couvre toutes les façades maritimes, celui-là au contraire il est confirmé, il sera bien lancé dans les jours qui viennent et sans doute attribué avant la fin de l'année 2026, et c'était ça le jalon important. Après, c'est plutôt réaliste de décaler de 2035 à 2037 l'objectif d'atterrissage, qui n'est d'ailleurs qu'un jalon dans une trajectoire qui doit continuer à croître compte tenu des retards qu'on avait déjà pris.
Jules Nissen, président du syndicat des énergies renouvelables sur l'antenne de France Info. Alors, à la tête d'un gouvernement minoritaire, Sébastien Lecornu ne pouvait pas espérer beaucoup de réactions positives à cette feuille de route. Et de fait, les oppositions n'ont pas tardé à critiquer la stratégie énergétique du gouvernement, surtout du côté de la droite et de l'extrême droite, Rosalie Lafarge.
La gauche n'applaudit pas non plus, loin de là, mais elle se montre globalement soulagée. La casse est limitée sur les énergies renouvelables, jugent par exemple les députés écologistes, même s'ils trouvent la feuille de route du jour bien loin des enjeux réels de la transition énergétique. Mais c'est vrai, les plus virulents sont de l'autre côté de l'échiquier. Le Rassemblement national brandit ce soir de nouveau la menace de la censure et annonce qu'il déposera rapidement un recours devant le Conseil d'État pour faire annuler ce décret dont il considère les conséquences dévastatrices. Marine Le Pen y voit une faute budgétaire, économique, technologique et écologique qui viendrait acter une soumission du gouvernement à la gauche. Nicolas Dupont-Aignan, pour Debout la France, assure que cette stratégie va faire exploser le prix de l'électricité. Quand le patron de la droite LR est désormais candidat à la présidentielle, donc Bruno Retailleau, publiait dès ce matin une tribune pour pointer du doigt un texte compromettant l'avenir économique et industriel de la France. Et tous se rejoignent pour critiquer le choix du gouvernement de passer par décret sans validation donc du Parlement. Des accusations anticipées et balayées par le Premier ministre. À un moment, il faut décider, assume Sébastien Lecornu. Convaincu, et ce sont ses mots, que pendant que le monde se réorganise énergétiquement, la France ne peut pas vivre d'hésitations permanentes basées sur des querelles arriérées et hors sol.
Rosalie Lafarge, la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie pour les 10 ans à venir, fera l'objet d'un décret publié normalement demain au journal officiel. Les Français restent exposés à des métaux dans leur alimentation, alerte l'ANSES dans un nouvel état des lieux. L'agence sanitaire s'intéresse notamment au cadmium, au mercure et au plomb. Elle pointe des niveaux d'exposition trop élevés pour toute ou partie de la population. Tara Schlegel, bonsoir.
Bonsoir.
Le cadmium, par exemple, est très présent dans la chaîne alimentaire, retrouvé dans 89% des échantillons analysés par l'ANSES. Un métal lourd, cancérigène, avéré depuis 93 par les instances sanitaires internationales. Et cette présence du cadmium, Tara, est plus importante en France que chez nos voisins européens.
Oui, par exemple, l'imprégnation de nos enfants est 6 fois plus élevée que celle des petits Allemands, parce qu'on trouve surtout ce métal dans le blé, les pommes de terre, donc le pain, pâtes, les frites, etc. Avec des conséquences qui effraient même les médecins. En juin dernier, l'URPS, qui représente les médecins libéraux par région, mettait le Premier ministre en garde contre une bombe sanitaire, fermez les guillemets, ce métal lourd s'accumule en effet dans les organismes, il nuit à la reproduction, altère les reins et le foie, provoque l'ostéoporose. Pire, il y aurait un lien avec l'explosion des cancers du pancréas, qui sont très mortels. Leur nombre a triplé en France en 20 ans. Ceci posé, l'origine de cette surpollution est connue. En France, elle vient de l'utilisation d'engrais phosphatés dont la teneur en cadmium est très supérieure à ce que tolèrent nos voisins. Pour preuve, la Commission européenne tolère 60 mg de cadmium par kilo de phosphore dans les engrais, c'est le plafond. Bientôt, ce ne sera plus que 40. Or, par dérogation en France, on accepte 90 mg et les agences sanitaires prônent, elles, 20 mg maximum. Alors, pourquoi cette dérogation qui court depuis plus de 15 ans? Parce que, historiquement, nous importons notre phosphate du Maroc où les mines sont particulièrement contaminées.
Et depuis l'alerte lancée par les médecins en juin, le Maroc affirme, Tara, avoir diminué ses teneurs en cadmium.
Effectivement, il existe un procédé chimique qui permet d'isoler le métal de la roche contaminée. Et depuis que la députée Clémentine Autain, notamment, a demandé une commission d'enquête sur le sujet, bien le Maroc fait de réels efforts. Le taux serait tombé à 37 mg par kilo, mais ça ne sera pas suffisant pour limiter l'accumulation dans les sols ni dans les organismes, car la demi-vie du cadmium est entre 10 et 30 ans.
Tara Schlegel, spécialiste santé à la rédaction de France Culture. L'heure du réquisitoire dans le procès des 9 CRS jugé pour avoir matraqué des gilets jaunes en 2018 à Paris. La procureure vient de requérir des peines de 6 à 20 mois de prison avec sursis contre les policiers jugés en correctionnel. Pour la magistrate, il y a bien eu des violences aggravées. Après les plaidoiries de la défense, le jugement sera mis en délibéré pour être rendu le 17 mars prochain. C'est peut-être un tournant dans le bras de fer migratoire aux États-Unis. L'administration Trump va mettre fin à son opération anti-immigration à Minneapolis, la ville du Minnesota, endeuillée par la mort de René Goode et Alex Priti, tués par des agents fédéraux le mois dernier. Les démocrates, emmenés par le maire de la ville, Jacob Frey, avaient réclamé le départ des milliers d'agents déployés sur place. Ce départ confirmé aujourd'hui par Tom Homan, l'émissaire de Donald Trump à Minneapolis. On fait le point avec Gwendal Lavina.
Une semaine après avoir retiré plus de 700 agents fédéraux de Minneapolis, Tom Homan annonce cette fois la fin de l'opération Metro Search dans tout l'État. Réclamée depuis plusieurs semaines par les habitants et les autorités locales démocrates, elle est permise par l'amélioration de la situation sur le terrain, explique le conseiller immigration de Donald Trump.
Avec les succès récents sur le front de la sécurité publique et d'autres priorités, tout comme la collaboration sans précédent de l'État et des forces de l'ordre local, j'ai proposé, et le président Trump a approuvé, que cette opération prenne fin.
Selon Tom Homan, 4000 étrangers en situation irrégulière ont été arrêtés en deux mois, mais la colère n'a cessé de monter dans l'État après la mort de deux citoyens américains en marge d'interventions d'ICE et de manifestations. Tom Homan dit n'avoir voulu à aucun moment le décès de qui que ce soit présent légalement ou illégalement sur le territoire, mais selon lui, l'opération reste un succès.
Les villes jumelles et le Minnesota sont et resteront plus sûres pour les communautés grâce à ce que l'on a accompli sur ordre du président.
Les 2000 agents fédéraux venus en renfort vont quitter l'État progressivement dans les prochaines semaines. Tom Homan a néanmoins prévenu que cela ne signifie pas pour autant la fin de la lutte contre l'immigration irrégulière sur place.
Gwendal Lavina, correspondant aux États-Unis. Dans sa croisade contre l'immigration, Donald Trump a des alliés en Europe, à commencer par la très droitière Giorgia Meloni. Le gouvernement de la première ministre italienne a présenté hier de nouvelles mesures pour lutter contre l'immigration clandestine. Nous utiliserons tous les instruments possibles pour garantir la sécurité des frontières et des Italiens, a expliqué Giorgia Meloni. On retrouve à Rome Bruno Duvic.
Le blocus naval, voilà ce que prévoit la première mouture du projet de loi. En cas de menace jugée grave à la sécurité nationale, accoster en Italie avec un navire de personnes exilées pourrait être interdit. Quelle menace ? Cela pourrait être une pression migratoire exceptionnelle, un risque terroriste, une urgence sanitaire. Ce blocus pourrait durer entre 1 et 6 mois. Les ONG attendent des textes plus précis pour savoir ce qu'elles risqueraient si elles le forçaient. Amendes salées et immobilisation des navires sont évoquées dans la presse. En complément, il y a la possibilité de diriger les bateaux vers des pays tiers pour l'examen des demandes d'asile en dehors du territoire italien. C'est le modèle des centres en Albanie qui, pour l'instant, ne fonctionne pas pour des raisons juridiques. De nouvelles dispositions européennes adoptées cette semaine à Strasbourg facilitent l'exploitation de ces centres. Le Conseil européen doit encore se prononcer sur ce point. Enfin, les motifs d'expulsion des personnes étrangères déjà en Italie sont élargis. Les conditions d'accès au rapprochement familiale et à la protection subsidiaire, une des formes de l'asile, sont durcies. Le texte détaillé du projet de loi n'est pas encore connu. Les informations viennent d'un long communiqué après le Conseil des ministres. Une fois présenté, le document ira au Parlement où le gouvernement Meloni ne devrait pas avoir de peine à le faire adopter.
Bruno Duvic, correspondant de France Culture en Italie. En Allemagne, les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour les constructeurs automobiles. Hier, c'était BMW qui rappelait plusieurs centaines de milliers de véhicules à cause d'un risque d'incendie lié à un démarreur défectueux. Aujourd'hui, c'est Mercedes qui annonce un bénéfice divisé par deux. A priori, Volkswagen va mieux. 6 milliards d'euros sont soudainement apparus sur les comptes du premier constructeur européen. Sauf que cette manne financière ne profiterait pas à tous les salariés. Sébastien Bayer nous appelle de Berlin.
Volkswagen s'attendait pourtant à une année 2025 catastrophique. Le constructeur a perdu sa place de leader sur le marché chinois et les bénéfices de Porsche et Audi, deux des 10 marques du groupe, se sont effondrés de 90%, sans compter les droits de douane américains qui ont aussi lourdement pénalisé Volkswagen. L'annonce de ce flux de trésorerie de 6 milliards d'euros représente donc une surprise de taille. Pour justifier ce résultat, le directeur financier met en avant le travail effectué pour baisser les coûts et la meilleure gestion des stocks de véhicules. Une bonne nouvelle a priori, jusqu'à ce que le journal journal Bild am Sonntag accuse les dirigeants d'avoir manipulé les chiffres grâce à des astuces comptables en reportant notamment des coûts de développement de l'année 2025 à l'année 2026. Le journal souligne que le flux de trésorerie dépasse légèrement le seuil de 5,6 milliards d'euros, ce qui permet au conseil d'administration de toucher l'intégralité de la prime annuelle. Cette manne financière doit permettre aussi de verser de généreux dividendes aux actionnaires. Le comité d'entreprise entend bien profiter également du pactole et réclame une prime pour le personnel qui a dû supporter un vaste plan d'économie avec gel des salaires et suppression des primes exceptionnelles.
Retour en France avec le temps ce soir et demain, toujours très agité après le passage de la tempête Niels. Deux départements restent en vigilance rouge pour la crue de la Garonne, la Gironde et le Lot-et-Garonne. Vigilance orange pour les deux Savoies, en raison cette fois pour le risque d'avalanche. Un ciel toujours pluvieux demain sur une large moitié nord. Les températures restent douces, entre 0 et 9 degrés pour les minimales, de 8 à 18 degrés pour les maximales.
France Culture, élection municipale 2026. Maire, pourquoi faire ?
Maire, pourquoi faire ? Notre rendez-vous hebdomadaire jusqu'aux élections municipales des 15 et 22 mars prochains. On s'intéresse ce soir à l'entretien des routes et des ponts. Une lourde charge pour les élus puisque la majorité du réseau routier relève du bloc communal. Or, les infrastructures s'abîment et réparer coûte cher. Une mission difficile pour les petites communes. Exemple à Jouy-sur-Morin, un peu plus de 2000 habitants en Seine-et-Marne, où un pont concentre toutes les attentions. C'est un reportage de Rosalie Lafarge.
Il n'est ni très long ni très large, ce pont. On n'y passe pas à deux voitures, mais en enjambant la rivière du Grand Morin, il relie un hameau au village, ce qui le rend incontournable pour une centaine d'habitants. Sauf qu'il y a près de deux ans, il a subi coup sur coup trois crues et un accident de la route. Il est depuis bien amoché.
On a une barrière qui est totalement détruite, on a des pierres qui ont disparu dans l'eau, on a des dommages sur l'enrobé. Sous le pont, en fait, on a deux fissures où on peut rentrer le bras à l'intérieur du pont.
Fermé à toute circulation pendant des mois, le pont a pu rouvrir il y a quelques semaines à la faveur d'une nouvelle expertise, mais uniquement pour les véhicules de moins de 2 tonnes et à vitesse réduite. Un soulagement pour ceux qui devaient faire un long détour pour atteindre l'école et les commerces, mais rien n'est terminé. De lourds travaux sont à prévoir au début du prochain mandat, explique le maire sans étiquette de Jouy-sur-Morin, Michael Rousseau.
On a à peu près une fourchette entre 400 à 500 000 euros sur ce pont-là. Par expérience, on sait que ça peut être malheureusement un peu plus, parce qu'on a le Grand Morin qui est une rivière classée, donc il y a la protection de l'environnement, il y a les berges à retravailler derrière. Donc moi, je m'attends toujours à un peu plus, à un chiffrage supérieur, sachant que, pour comparaison, nous, le budget d'investissement de la commune par an, c'est entre 600 et 800 000 euros. Alors, on a la chance, grâce au département de Seine-et-Marne, d'avoir déjà une certitude d'une subvention de 80 000 euros. Et l'État, grâce au plan SOS Pont, envisage une belle subvention aussi pour la commune pour limiter vraiment les frais, parce qu'on ne pourra pas le faire sans les subventions. Donc, on est très prudent avec les investissements qui vont arriver sur le prochain mandat, s'il y a.
Même avec les subventions, cela va coûter cher à cette commune, déjà obligée de consacrer au moins un tiers de son budget à l'entretien de ses 6 ponts et 47 km de voirie. Et ça force à réfléchir à la suite, concède le jeune élu candidat à sa réélection.
On va refaire un tour sur tous les ponts et envisager déjà dans les budgets à venir de se dire qu'il faut préparer une enveloppe de secours. Parce qu'en fait, c'est ce que m'expliquait le cabinet d'études. Sur des ponts qui sont si vieux, maintenant les normes font qu'on part plus sur de la reconstruction quasiment. Donc c'est tout de suite des gros budgets. Donc il faut anticiper via le département et la région des subventions à venir pour préparer un renouvellement, peut-être un pont par mandat. Et ça sera déjà énorme.
Anticiper pour ne pas avoir à gérer des chantiers d'envergure, pas toujours facile à mener. On se sent parfois un peu seul, reconnaît ce maire, face à tout ce qu'il faut désormais entreprendre. Les études à faire en amont sur la faune, la flore, les sols, les matériaux. Une lourdeur que déplorent les adversaires de Michael Rousseau pour ses municipales. Sylvie Thibault, candidate, et Luc Nérinck, l'ancien maire de la commune, présent sur sa liste.
Il faut faire des travaux, c'est certain, mais il ne faut peut-être pas partir dans une complexité comme là on est en train de faire.
Mais ça, à vrai dire, c'est pas franchement la faute de monsieur le maire, hein, c'est la faute de toutes ces procédures obligatoires.
Bien sûr, en 12 ans de temps, on a vu des complications, on a vu un tas de choses, des normes qui changent. Le problème, maintenant, il faut une maîtrise d'œuvre, il faut tout un tas de choses qui nous coûtent déjà énormément, et puis pour rien, tout compte fait. Hein. Si on a les qualités pour juger du travail, je vois pas pourquoi on va aller chercher des gens pour le faire. C'est une aberration. On cherche à faire des économies, et par contre, on dépense
sans regarder,
peut-être pas nécessairement.
Mais à notre niveau, on n'a vraiment pas beaucoup de pouvoir. On a juste le pouvoir de payer, et puis de gratter le maximum de subventions, si l'on peut.
C'est très long, ça demande beaucoup d'énergie et de temps, et des fois pour rien avoir, ou très peu. Mais bon, le peu, c'est déjà ça.
Des associations d'élus appellent plus largement à repenser le modèle économique de la route qu'elles jugent à bout de souffle. Nous n'avons plus les moyens d'entretenir correctement les centaines de milliers de kilomètres de voirie dont nous avons la charge, alerte ainsi l'Association des maires de France, réclamant par exemple de toucher les recettes des amendes de police municipale ou de récupérer une partie des profits générés par les autoroutes.
Alors, pour répondre à ces défis, le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, appelle à une stratégie nationale ambitieuse pour adapter les infrastructures au changement climatique. C'est le sens de l'avis rendu le 13 janvier dernier, car les phénomènes météo dégradent le réseau routier, entraînant des coûts considérables pour la collectivité. Écoutez à ce sujet l'analyse de Didier Gardinal, le conseiller du groupe des entreprises au CESE. C'est l'un des deux rapporteurs de l'avis.
Déjà, c'est un cri d'alerte. Au secours, demain, avec le changement climatique, nos infrastructures sont déjà en train de se détruire, mais n'importe quelle catastrophe va empêcher la circulation dans des territoires. Tout le monde est au courant. Prenons tout de suite les mesures financières. Pour Notre-Dame, on a rebâti en 5 ans parce qu'on a mis de côté quelques normes. Il faut faire exactement la même chose avec les infrastructures. Faisons un état des lieux, on fait des choix. Ce pont-là, on le fait tout de suite plutôt que celui-là parce qu'il est plus utile, etc. Et on met en place des financements innovants.
Mais là, on parle de financements très importants dans l'avis du CESE. Vous dites qu'il manque 1 milliard d'euros par an pour l'entretien et la maintenance et 4 milliards pour l'adaptation au changement climatique. On le trouve où cet argent ?
Les pistes de financement, il y a aujourd'hui effectivement des milliards et des milliards qui dorment, qui sont inactifs. Donc je comprends les Français, ils ont peur de demain et donc ils épargnent. Et in fine, ça fait pratiquement la dette de la France aujourd'hui, toute cette épargne. Et cette épargne, elle est entre guillemets improductive. Donc donnons aux Français sur des fonds de placement, sur des livrets, des possibilités de placer avec une rentabilité de leur argent, mais avec de l'argent qui va servir à la collectivité en général. Il n'y a pas que ça. Les fonds européens, les macro-régions, les partenariats publics-privés. C'est sûr que partenariat public-privé, il y a une colocation, rentabilité, mais il y a des fonds de pension, il y a des fonds de retraite qui sont prêts à investir. Il faut simplement qu'il soit équilibré. Mais il y a des sources de financement qu'il faut aller chercher.
Ce qui permettrait d'aider les maires notamment, puisqu'ils ont en charge 700 000 km de route, à financer des travaux souvent inenvisageables sans subvention et qui peuvent atteindre des niveaux colossaux à l'échelle d'une commune.
Les maires n'ont plus les moyens, ni les techniciens, ni les aides suffisantes pour anticiper. Aujourd'hui, en France, on manque d'anticipation. C'est pas qu'au niveau des communes, c'est l'État, c'est le gouvernement. Vous le remarquez tous les jours. On n'anticipe plus. On réagit. On préfère réparer quand le pont est détruit. Et là, ça détruit la vie. Parce que les infrastructures, c'est la vie économique, la santé, l'éducation. Donc, on attend. On n'anticipe pas. Et donc, demain, ça va coûter entre 5 et 10 fois plus cher qu'aujourd'hui.
Et c'est particulièrement vrai dans les petites communes ?
Alors, moi, j'ai été conseiller municipal d'une petite commune. J'ai également été adjoint aux finances quelques années. C'est vrai qu'on est tellement dans le quotidien, y compris dans les grandes communes. C'est au jour le jour, il se passe ceci, ça, il faut réagir tout de suite. On ne se pose pas assez souvent pour anticiper. Et dans les petites communes, on est complètement débordé et on est laissé à nous-mêmes. Donc quand vous nous enlevez les finances, quand vous nous mettez des normes administratives pas possibles, on y passe du temps, mais c'est infernal. Eh bien, l'anticipation, mais on ne peut plus la faire. Donc essayons de trouver des systèmes de mutualisation qui nous permettent de nous poser tranquillement, au moins de réfléchir. Parce qu'on anticipe pas aujourd'hui et demain, la population, elle va nous le reprocher. Le problème des maires, c'est ça, c'est l'anticipation. On a eu des maires dans les auditions, je ne vous dirai pas les communes, mais qui nous ont dit « Oh mais non, je ne saurais même pas dire combien j'ai de ponts, combien de kilomètres de route, etc. » Les plans de prévention des risques, on est en plein dans le sujet, ils sont obligatoires. C'est les préfets qui doivent surveiller. Mais aujourd'hui, il y a des communes qui n'en ont jamais fait. Et surtout, les plans de prévention du risque ne parlent pas du tout de l'adaptation au changement climatique. C'est un état à l'instant T. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a une inondation, s'il y a un feu, etc. Mais on ne parle pas d'anticipation.
Parce qu'on ne veut pas voir ou parce qu'on n'est pas conscient de ce qui va se passer? Comment on explique ça?
Je pense que les maires ont la conscience de ce qui peut éventuellement se passer. Ça a commencé les catastrophes. Le tunnel du Mont-Blanc, on a eu des énormes catastrophes, mais qu'est-ce qu'on fait? Je vous prends un seul exemple. Dans mon département, on a deux tunnels, 3,5 km et 4 km et quelques. Il y a des travaux à faire parce qu'il y a des infiltrations partout, et c'est la vallée du Tarn, ils sont indispensables. Le président du département que j'ai auditionné me dit « je ne ferai pas les travaux parce que depuis le tunnel du Mont-Blanc, mon tunnel, qui est un tout petit tunnel derrière le tout, si je fais des travaux, il faut me mettre aux normes du tunnel du Mont-Blanc, c'est-à-dire des voies de délestage. C'est pas possible. Tout ce genre de normes, d'empilement, de responsabilités, les régions, les départements, les communes, les intercommunalités, etc., ça ne facilite pas les décisions.
Didier Gardinal, membre du CESE, au micro de Rosalie Lafarge, maire Pourquoi faire, une série de la rédaction de France Culture, à retrouver sur notre site et sur l'application Radio France.